France Inter.
J'ai compté 3 ans à se balader en marge le samedi soir. Ça fait très exactement 150 heures sur les routes de traverse. 5355 minutes. Ici, j'ai compté jeudi. À prendre des itinéraires bis, à se dire que oui, le monde, on pourrait le vivre autrement. On a le droit, ou on le prend, de tout casser et d'inventer. Et on peut faire péter le corset, on peut pimper le conte de fées, l'ouvrir, le relire et le twister. Non, ils n'eurent pas beaucoup d'enfants. Ils préféraient rester amants. Et ils n'étaient ni blonds ni blancs. Tiens, un prince en fauteuil roulant et la princesse a foutu le camp. Nos histoires vraies, elles ont des plis, des creux, des bosses et du relief. Parfois ça tangue au moins sa vie et on le sait, en marge, on rit. On rigole parce qu'on sait pleurer, que la gravité, on connaît. Nos ailes, on les a fait pousser et on a appris à voler. Alors, vous savez quoi? Cette dernière, on va se la faire en beauté.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Agathe Chanuport. Bonsoir.
Bonsoir Julia, bonsoir Ethan.
La Reine des Neiges, c'est votre chanson. Pourquoi ?
Parce qu'elle m'a permis quelque part de libérer, délivrer de la pression par rapport à la maladie.
Ouais.
Et je l'écoutais en boucle, ce qui a un petit peu embêté mes collègues en création.
J'imagine surtout qu'en plus, une fois qu'on l'entend, c'est en boucle et on n'arrive plus à se l'enlever de la tête.
Exactement. Et en écoutant cette chanson, je me suis dit, bah, je vais me libérer de la maladie. Ouais. Et en prenant des médicaments, ça m'a permis de me délivrer un petit peu. Donc,
de vous stabiliser.
Exactement.
De contenir quoi ? Des angoisses, une sensibilité ?
Alors, de me stabiliser par rapport aux angoisses. Et aussi, j'aime beaucoup le personnage de la Reine des Neiges.
Mmh.
J'ai même acheté la robe de la Reine des Neiges. Et oui, c'est vrai.
Et vous la portez ?
Je l'ai portée une fois à Noël.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas teinte en blonde.
Pas encore.
Pas encore.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous êtes artiste, plasticienne et par ailleurs atteinte d'une forme d'autisme. Vous travaillez en atelier à l'ESAT Camille Armange. Et c'est de là que vous avez candidaté pour le festival Colis Suspect, festival génial d'art brut, né autour et dans des IME, Instituts Médicaux Éducatifs. Festival auquel vous participez aussi, Ethan Ofiong. Bonsoir Ethan.
Magadef, bonjour.
La tête dans sa trousse, déjà en train de vous apprêter à dessiner, là, c'est ça ?
Oui.
Il y a 3 trousses autour de vous. Une rouge, une bleue, une noire. Qu'est-ce que vous apprêtez à faire, Ethan ? Dites-nous.
Ça dépend. Je aime bien dessiner quand je peux. Je dessine pour relier la stress un peu. Je ne suis pas très fort. J'ai eu un peu fort, mais pas trop fort en dessin.
Ok.
Je peux être précis, mais à la fois, je peux être frustré et raté. Comme tout le monde.
Alors oui, je pense comme tout le monde, quelque chose me dit qu'on va avoir au moins un joli dessin d'ici la fin de l'émission et ça me réjouit. Vous avez 17 ans, Ethan, et les téléspectateurs de France 2 connaissent bien votre voix. Vous faites partie de l'équipe du Papotin, journal atypique, comme on dit, journal papier devenu émission de télé. Et l'an dernier, par exemple, devant Ginette Colinka avec son fils Richard à la batterie, avec votre groupe Mary Bell, vous avez rêvé d'un autre monde.
Je n'aime pas trop ma voix parce que...
C'est vrai ?
Oui, parce que je ne sais pas. personne à côté et tout le monde aime, mais à la fois dans le profond, je ne sens pas que je suis assez bien ou que je suis fort, même si tout le monde me dit que j'ai une bonne voix. Et que je...
Alors, je peux vous assurer que tout le monde pense que vous avez une très très jolie voix et pour le coup, moi j'aurais pu l'entendre jusqu'au bout. J'ai simplement repris le micro parce que j'avais l'impression que vous étiez dans une situation inconfortable et comme c'est pas le but.
Oui, mais chaque fois que je regarde des gens sur YouTube ou sur autre plateforme, je sens un peu inférieur contre eux parce que ma voix c'est un peu petit contre eux.
Bah, vous avez 17 ans, vous avez tout le temps, Ethan, enfin.
Oui, mais sauf il y a des gens qui ont chanté bien plus jeunes que moi, et en plus, ils ont eu leur carrière. Ils ont fait un peu beaucoup plus leur carrière.
Mais votre vie, vous êtes en train de la faire. Si vous pouviez changer quelque chose de ce monde-là, puisqu'on se parle de rêver d'un autre monde, il serait comment, votre monde à vous, votre monde idéal ?
J'aimerais vous dire, mais je ne pense pas que ça plairait beaucoup aux gens qui sont au pouvoir.
Ah, ce serait quoi alors ?
Pas un monde où, au moins... En moi, où il n'y a pas de restrictions sur les actions, où en moi, le capitalisme, on peut en moi le débarrasser, et en moi...
Ok, donc la fin du capitalisme, ça, c'est le monde rêvé,
oui.
C'est ça ?
Ouais. Et aussi un monde où le monde peut prendre compte de leurs ressources et partager seulement si ça valeur tous les termes du monde.
Que ça ruisselle vraiment, pour une fois. Votre monde rêvé à vous, Agathe, qu'est-ce qui changerait ?
Alors moi,
de
je
ce
suis
monde-là.
Un peu d'accord avec Ethan, un partage des ressources équitables, ça serait déjà très bien. Et surtout qu'on considère la différence mentale ou physique comme une richesse et pas comme un défaut. Et qu'il y ait plusieurs de représentations des personnes dites des minorités ethniques et handicapées, parce que nous sommes une minorité, pas forcément représentée dans l'art, et dans la culture en général. Un monde plus ouvert, plus coloré, et surtout où il y ait de l'entraide, et qu'il n'y ait plus de guerre, surtout.
C'est pas mal, j'aime bien le programme. On continue ensemble avec cette séquence que tous les invités ont fui, ont redouté. C'est un moment où je vous tends un miroir, je vais vous demander de vous regarder. Agathe, il s'agit de vous décrire pour celles et ceux qui nous écoutent, pour qu'on puisse se figurer un visage et qu'on entende le regard que vous portez sur vous. Dites-nous, comment est-ce que vous vous décririez ?
Une jeune femme, type caucasien,
okay.
Qui porte des lunettes noires, aux cheveux courts, au visage un peu long, allongé plutôt, et la mâchoire un peu carrée, qui s'exprime plutôt bien, aux yeux marrons.
Et vous vous aimez bien ?
Ça peut aller.
Est-ce que vous passeriez le miroir à votre camarade Ethan qui s'est mis à dessiner ? Qu'on va donc interrompre une deuxième fois, pardon Ethan. Je vais vous demander de vous regarder. Est-ce que vous pourriez vous décrire, s'il vous plaît ? Vous prenez un air très pincé, tout à coup vous vous concentrez, vous êtes redressé. Qu'est-ce que vous diriez de vous ?
Je ne vois pas un visage, je vois juste une personnalité. Parce que honnêtement, je ne montre pas trop mon émotion, parce que je garde certaines fois mes émotions à moi.
Ok, vous gardez vos émotions pour vous, ok. Vous avez le droit.
Je vois un garçon noir... techniquement marron, avec des caractéristiques, avec un peu sans émotion, qui a des tresses.
Ouais.
C'est tout ce que je
peux... Qui est très grand, 1m87, je l'ai appris juste avant qu'on commence l'émission,
oui,
chapeau.
Oui, c'est ce que mon docteur dit, mais je me suis mesuré à l'IME, il disait que je faisais 1m86 par 1m87, après que je trouve ça un peu bizarre.
Oui, c'est un peu étrange quand même, 1 cm de moins, où est-ce qu'il est passé ce centimètre, on ne sait pas. Merci Ethan, merci Agathe, on a vos voix, on a vos visages, votre histoire, vous allez nous la raconter.
France Inter, En Marge.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver.
Qui écoutait Henri Salvador chez vous, Agathe ?
Alors, c'était ma maman qui écoutait Henri Salvador, et je l'ai beaucoup écouté lors de mes voyages aux Caraïbes, sur l'île de la Guadeloupe.
Ouais.
Et on l'écoutait souvent en boucle dans les cassettes.
C'était avant La Reine des Neiges, mais c'était en boucle
oui,
aussi.
Oui, c'était en boucle aussi, dans les vieilles cassettes audio, dans les voitures de location sur les routes de la Guadeloupe. Ça tombe bien parce qu'Henri Salvador est de la Guadeloupe. Mmh. Et ma mère adorait cette chanson.
Alors l'enfance avait le son d'un jardin d'hiver, l'odeur du Chanel numéro 5, parfum de votre mère, l'odeur aussi de la poussière, dites-vous. Pourquoi la poussière ?
Ma mère n'aimait pas trop faire le ménage.
C'est vrai ?
Du coup, j'avais beaucoup de poussière chez moi.
Mmh.
Et du coup, ça sentait un petit peu la poussière.
Elle était particulière, votre mère, hein ?
Oui, très particulière, mais c'était ma mère. Mmh. Elle m'a transmis beaucoup de choses.
Vous êtes née, vous, très exactement le 3 octobre 89
non.
à Neuilly
3 décembre.
3 décembre, pardon. À Neuilly, votre mère était juriste, votre père commercial. Ils se séparent quand vous êtes toute petite et vous grandissez donc en tête à tête, toutes les deux, mère et fille. Votre père, vous le voyez, mais de manière assez sporadique. Vous vous entendiez bien, toutes les deux ?
C'était une relation un peu compliquée parce que ma mère n'était pas souvent présente du fait de son travail. Mais oui, je m'entendais comme une fille avec sa mère, même si elle m'a donné une éducation assez stricte. Et je l'en remercie parce que grâce à elle, je suis ouverte à plein de choses. Et
qu'est-ce qu'elle vous a transmis, par exemple ? Qu'est-ce que vous faisiez avec elle ?
D'être ouverte à plein de choses, la rigueur, l'amour des livres, l'amour des musées, l'amour de la culture et surtout l'amour de l'histoire.
Elle détestait donc faire le ménage, elle détestait faire la cuisine, ça oui. En revanche, elle adorait les livres, les musées, vous le disiez, dès qu'elle pouvait, elle vous y emmenait. Qui sait, peut-être que la graine de la créativité a été plantée par là-bas. Quant à vous, Ethan, votre enfance à ce son-là.
Depuis plus de 70 ans, les studios Walt Disney ont conquis nos cœurs avec les personnages les plus charmants, ravissants, adorables que l'on puisse imaginer. À présent, la tradition va...
Ce n'est pas Simba.
Son nom est Stitch.
Oh, bravo, il s'est évadé.
Il a pris un vaisseau patrouille.
Et il a pris le rouge.
Cet imbécile s'apprête à faire le grand saut.
Où est-il ?
Lilo et Stitch, vous adoriez ce dessin animé, Ethan. Pourquoi ?
Parce que la nature de Stitch, même si il a seulement quelques jours, 10 ans, il n'a pas toujours été.
Alors c'est un extraterrestre, il est assez solitaire.
C'est pas extraterrestre, c'est plus un hybride de nombreuses espèces de l'union planétaire.
Autant
que
pour
la
moi.
Terre ne fait pas partir.
Vous, vous vous sentiez proche de Stitch ? Est-ce que vous vous sentiez un peu solitaire ou un peu différent des autres quand vous étiez petit ?
Quand j'étais plus jeune, c'était un peu dur pour intégrer dans l'école sociale parce que je parlais pas en français, parce que quand j'étais petit, je parlais seulement anglais et allemand, parce que ma mère et ma marraine parlaient seulement anglais et allemand.
Ok.
Ma mère avait essayé plusieurs fois. J'ai seulement parlé français quand j'ai quitté l'école nationale, quand j'avais presque 4 ou 5 ans.
Ouais. Donc il y avait la barrière de la langue. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui faisait que vous sentiez peut-être en décalage ?
J'étais pas très proche des autres enfants parce que je aime garder à moi tout seul et quand je veux, je préfère être avec les adultes parce que je sais pas, parce que c'était un peu dur pour moi parce que les autres enfants pensaient que je suis un peu bizarre.
Avril 2008, vous arrivez sur Terre du côté de Sèvres. Après vous viendront un frère et puis une sœur. L'enfance a la saveur du lait à la vanille et des fraises Tagada. Vous avez vous dit en préparant cette émission. Votre mère et votre beau-père vous élèvent avec la plus grande douceur. En dehors de la maison, c'est plus compliqué.
J'ai jamais connu mon beau-père jusqu'à j'avais presque 3 ou 4 ans. C'était après ça, quand j'avais 4 ans et demi, ma petite sœur était venue. À la fois, j'étais un peu jaloux de elle parce qu'elle avait beaucoup d'attention. Mais
c'est normal, mais tous les grands frères sont un peu jaloux.
Oui, mais c'est jusqu'au jour que j'ai réalisé que ma sœur avait un petit malaise, mais elle n'était pas autistique ni à des conditions mentales. Elle est juste elle était, ma mère voulait prendre trop attention de elle parce qu'elle est très fragile. Elle était malade tout le temps.
Okay.
Mais elle est toujours vivante.
Bon, bah, tant mieux. Et votre frère aussi?
Et mon petit frère, il est un peu asthmatique, mais il est mince et très énergétique.
Ok.
Il n'arrête jamais de manger.
Ça me va. Le monde extérieur vous fascine autant qu'il vous effraie. Vous voulez le comprendre, vous voulez l'explorer au mur de votre chambre, des cartes du monde entier, un atlas sur votre table de chevet et Carmen San Diego à la télé.
Comment t'as pu te retrouver dans cette école pour voleurs?
Tu veux entendre toute l'histoire?
Bienvenue à l'école de Weil, l'institut de formation pour voleurs de haut rang.
Si tu choisis la voie des voleurs professionnels, il te sera impossible de revenir en arrière.
Tu es la voleuse maîtresse du crime, duchesse de la ruse. Pourquoi elle vous plaît tant?
Son caractère est très mystérieuse. Elle a une passé très mystérieuse. Elle veut savoir encore plus, mais elle veut aussi libérer du monde du mal que la corporation qui a été élevée, du mal qu'ils ont fait.
Elle a un côté justicier, quoi.
Un peu. Mais moi, je pense honnêtement que Carmen San Diego, c'est un peu à référence d'une femme gypsy qui, comme l'opéra de Carmen, et porte toujours en rouge et qui est amie avec des voleurs.
Oui, et puis elle est très belle, elle a quelque chose de très fascinant, elle a du panache, cette Carmen. Agathe, c'était qui vos héros, vos héroïnes d'enfance ou d'adolescence?
Je dirais peut-être les super-héros Marvel et aussi certains personnages de jeux vidéo, mais surtout les super-héros Marvel, je pense.
Lesquels, par exemple? Est-ce qu'il y avait des super-pouvoirs qui vous fascinaient, que vous auriez aimé avoir, petite?
Je pense peut-être au personnage des X-Men.
Ouais.
Parce qu'il y a le pouvoir de la télépathie, de la télékinésie que j'aime bien. Parce que moi qui
tu parles de Emma Frost?
Emma Frost, elle gèle les gens, mais elle est télépathe aussi.
Ah non, Emma Frost, c'est un télépathe.
Oh waouh, je sens qu'on va avoir une discussion, un débat hyper pointu sur les X-Men. Je vous dis tout de suite, je ne peux pas suivre. Hein. Je ne suis pas calée du tout.
Non, moi je suis plutôt Jean Grey. Mm-hmm. Mais j'aime bien aussi Emma Frost.
Et moi j'adore aussi. Le d'Ethan qui dit tout, absolument tout de ce qu'il pense.
Je sais qu'elle est un peu télépathe aussi, j'ai vu qu'elle est très puissante aussi.
Elle est une des puissantes, mais elle n'est pas invisible. Dans un des séries, elle était décédée.
D'accord, moi je savais pas.
Si en plus elle est morte, je vois pas l'intérêt, quoi.
À cause du parce qu'elle a sacrifié sa vie pour son équipe, même si elle était dans le côté des méchants.
Ok. Agathe, pourquoi le don de télépathie ou de télékinésie vous...
Pour la télékinésie, c'est parce que je suis maladroite et que ça m'éviterait de faire tomber des choses par terre et j'ai souvent caché des choses quand j'étais petite.
Mm-hmm.
Et la télépathie, comme j'ai souvent du mal à...
comprendre des gens.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Et à communiquer. Qui a décrypté les émotions humaines, donc ça pourrait peut-être m'aider de voir ce qu'il y a dans leur tête.
À quel moment de votre vie on a pu poser un diagnostic sur ce que vous ressentiez, sur cette différence-là, sur cette difficulté à comprendre les autres?
Dès que j'étais en hôpital de jour en troisième. Même bien avant, quand j'étais pré-ado, je pense.
Est-ce que votre mère, vos parents, se sont posé des questions quand vous étiez petite?
Je sais pas.
Est-ce que vous avez fait des examens? Vous avez vu des médecins?
Oui, j'ai fait des examens avec ma mère, avec les tests des tâches et les tests d'habilité sociale, entre guillemets, à la mairie de Courbevoie, oui.
Mais on sait que de toute façon, pour l'autisme, c'est toujours très long et puis très varié aussi, avant de comprendre ce qu'il se passe. Vous avez donc, vous êtes pré-adolescente quand on pose un diagnostic sur vous et alors le quotidien commence à avoir ce son-là. Vous alliez où en métro, Agathe?
J'allais à l'hôpital de Jourdes à Richelieu-Drou, à la Grange Batelière pour commencer.
Mmh.
Et après, j'allais en Transilien Ligne L à Sèvres-Ville-d'Avray, à l'hôpital de Jourdes également.
Vous y étiez bien traitée, vous y aviez votre place?
Alors, j'avais ma place concrètement parce que j'étais membre de l'établissement, mais c'était assez difficile pour moi. Une ado handicapée psychique, c'est pas forcément facile, mais j'ai découvert le dessin, la musique. Donc oui, il y a du côté positif aussi.
Vous lisez Harry Potter, vous dévorez Le Seigneur des Anneaux et en boucle l'Iliade et l'Odyssée à 13 ans. Vous rêvez de quoi à cet âge-là? Vous dites que la vie va ressembler à quoi?
Ma vie, pour moi, c'était devenir avocate.
C'est vrai?
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait?
De défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et ce que j'imaginais de la vie, c'était un peu comme les séries américaines, défendre des gens dans des situations compliquées et aussi m'évader à travers les livres. Le voyage, beaucoup le voyage.
Votre mère tombe malade quand vous avez 15-16 ans, vous devenez aidante, elle va s'accrocher 3 ans et vous voilà devoir inventer une vie sans elle. Est-ce que vous avez des gens sur qui compter autour de vous, des amis de votre âge, des proches qui vous prennent un peu en main, qui vous entourent?
Des amis de mon âge, non. Ma famille m'a beaucoup soutenue quand même. J'ai vécu longtemps chez mes grands-parents, mais c'est surtout mon père et ma marraine, et plus tard un de mes oncles qui se sont beaucoup occupés de moi et me soutiennent.
Au départ assez doué en histoire et en dessin, vous décrochez, vous triplez votre troisième. On veut absolument vous orienter dans des filières techniques, le conditionnement, la manutention. Mais vous tenez bon, vous, ce que vous aimez, c'est l'art. Vous écrivez des poèmes que vous cachez, vous peignez, vous dessinez. Et vous restez en hôpital de jour jusqu'à vos 25 ans, jusqu'à ce que vous entriez à Camille Armange il y a une dizaine d'années. Ça a changé quoi pour
Alors,
vous d'aller là-bas?
Il y a une étape que vous avez sautée.
Je suis obligée d'en sauter quelques-unes parce que sinon, les émissions feraient toutes 3 ou 4 heures.
Alors, en fait, avant Camille Armange, j'étais à Alexandre Dumas.
Ouais.
Et après, pour la petite anecdote, c'est le jour de mon anniversaire, quand j'étais en GEM, qu'on m'a dit
c'est...
groupe d'entraide mutuelle, où je faisais du dessin à Belleville, où on m'a dit la directrice m'a appelée pour me dire t'es embauchée. Et là, j'étais ravie.
Ouais.
Je suis très heureuse à Camille Armange, je suis très heureuse dans mon atelier A92, atelier création. On fait des très beaux projets avec notre monitrice, Clémentine.
Ça veut dire que ça y est, vous êtes reconnue comme artiste?
Oui.
Ça veut dire que ça y est, vous travaillez aussi avec d'autres, vous n'êtes plus toute seule?
Oui, je ne suis plus toute seule, je suis dans une équipe d'une dizaine de personnes.
Ouais.
Mais moi, j'ai une double casquette. Parce que le matin, nos journées commencent de 8h45 et se terminent à 16h45. Donc, j'ai 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Du coup, le matin, je suis en création et l'après-midi, je suis en numérisation. Donc, je côtoie deux équipes, deux moniteurs. Je fais souvent des choses qui me plaisent énormément.
Et ça s'entend à votre voix.
Et je suis très contente d'être en ESAT.
On sent la joie dans votre voix, vous. Ethan, vous étiez scolarisée jusqu'à la fin du collège en milieu dit ordinaire, passage au lycée, passage en IME. Vous rejoignez Alternance, qui est un institut un peu particulier avec un fort accent mis sur la créativité des résidents. Pour vous, ça va très vite être le chant. Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez une voix et que vous aimiez ça?
C'était depuis que j'étais allée au collège. Catherine Bonnet avait dit que j'avais une belle voix, mais elle dit que je dois un peu travailler sur ça, mais j'ai une voix un peu extraordinaire. Tout le monde dit un peu ça. Il y avait même une dame qui avait dit que je lui donnais un peu des frissons. Des bonnes frissons, je crois.
Alors, il y a d'abord eu une chorale en unité d'enseignement. Et puis là, vous venez de rejoindre un conservatoire, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, en chant lyrique. Parallèlement, avec Alternance, vous avez rejoint la rédaction du Papotin. Journaliste, ça vous va bien aussi? Vous aimez ça?
Oui.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier-là, dans cette activité-là?
Je ne conseille pas trop comme métier, mais activité que je rencontre beaucoup de gens intéressants, mais la majorité des gens sont plus des acteurs et un peu des gens un peu ordinaires, certaines fois des athlètes, mais plus des acteurs, des gens de théâtre.
Il y a Emmanuel Macron qui est venu au Papotin, je crois.
J'étais pas là pour ça.
Ouais.
Et moi, j'ai dit, c'est dommage. Et il y avait, mais je préférais plus le sel avec Christian Taubira et Julien Colonca et aussi François Hollande.
Oui. Agathe, vous leviez le doigt, vous voulez dire quelque chose?
Je trouve que c'est impressionnant ce que tu as fait en tant que journaliste. Moi, j'aimerais bien aussi un jour participer au Papotin.
Aujourd'hui, Ethan, vous avez 17 ans, vous avez monté ce groupe Méribel avec vos camarades d'alternance. Quant à vous, Agathe, vous exposez à l'OCDE, par exemple, avec Atelier 92, c'est le nom de votre collectif, le nom de votre compte Instagram aussi. Et Colis Suspect vous réunit tous les deux, mais pas que. Bonnie Banane sur France Inter. Bonnie Banane, l'une des têtes d'affiche de Colis Suspect. Donc vous êtes le grand maître de l'ombre, Christophe Lhuillier. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Grand maître de l'ombre, ça vous va ou...
ouais. Grand maître de l'ombre, je suis...
je sais pas alors... si c'est très français, mais je voyais l'idée, quoi.
j'essaie d'appliquer surtout les idées et les ambitions du bureau et du CA, de l'association Futur Composé.
Alors dit comme ça, c'est pas hyper sexy, mais vous allez nous en dire plus. Oui, quand on dit du bureau et du CA de l'association, bon, tout de suite, on est parti sur une dimension...
J'essaie de porter les idées de l'association, voilà.
On va en parler, évidemment, on va poursuivre notre balade en marge. Et avec vous, Agathe Chanuporté et Tan Ofiong, tous les deux artistes programmés dans cette 4e édition de Colis Suspect. Préparez vos agendas, c'est du 25 au 3 juillet à Paris, Ground Control. Et pour être précis, autant vous dire que c'est vraiment très, très bien.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Christophe Lhuillier, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le principe de ce colis suspect ? C'est quoi, c'est qui, c'est quand, c'est comment, c'est quoi ? Allez-y.
Alors le colis suspect, c'est porté par l'association Futur Composé, donc, ouais, qui existe depuis 25 ans cette, ouais, année, qui fête sa 25e année. Et colis suspect, ça date de l'époque du confinement, où à l'époque, avant le festival faisait vraiment, enfin l'association faisait des festivals avec des pièces de théâtre et tout ça.
Et l'idée moment... de l'association, c'était de décloisonner,
oui, tout à fait,
l'art, de lui permettre d'aller absolument partout, de mettre l'art à la portée de tous, qu'on
l'art
soit
à la portée de tous,
qu'on soit valide ou non valide, qu'on ait un handicap psychique ou pas. Enfin, c'est
en,
un peu l'idée.
En tout cas, ça, c'est une association qui s'est quand même beaucoup construite sur des institutions et sur un réseau à institutions du médico-social, sur un réseau qui est, historiquement s'est construit autour de l'autisme. Mm-hmm. Donc c'est, même si ce n'est pas une condition sine qua non, c'est, okay, vrai que c'était, voilà, ça s'est fait comme ça avec le temps. Et apporter un festival avec des créations théâtrales, avec des choses très ambitieuses. Et en 2020, il y a eu le confinement et donc une impossibilité de faire le festival. Ouais. Tel qu'il était avant, et donc on a eu l'idée de colis suspect, c'est-à-dire de pouvoir essayer de jouer un peu à domicile pour que les institutions, comme elles ne pouvaient plus faire les résidences pour les spectacles, on a décidé d'envoyer un colis ouais, mystérieux. Donc la première année, c'était une sorte de ticket de métro fossilisé. Après, on a travaillé autour des Jeux Olympiques cette année.
Donc l'idée, c'est vous envoyer donc ce colis, ouais, cet objet, à une cinquantaine d'IME d'instituts médico-éducatifs et vous leur proposer, voilà, vous proposer à leurs membres de travailler envoyé dessus et de proposer des créations artistiques autour de cet objet-là.
Autour de ce collier, voilà. Okay. Le collier, il est là, on le reçoit, et les institutions, alors c'est pas que des IME, hein, c'est des hôpitaux de jour, c'est un peu de tout. Il y a même des gens qui s'inscrivent librement et qui vont nous restituer une œuvre d'art et participer selon différentes catégories. Donc c'est à la fois quelque chose qui se veut très vraiment accessible à tous dans l'institution, et en même temps, on pense des dispositifs pour ceux qui ont un talent un peu plus singulier, un peu plus particulier, pour pas non plus qu'ils soient noyés dans la masse, parce que ça peut être aussi le danger. Et donc, et depuis le confinement, on a répété cette formule, donc l'événement colis suspect, donc c'est
en fait,
notre quatrième édition. Ouais.
Un an pour y participer, pour vous envoyer leurs œuvres, et on se retrouve donc à la fin de l'année.
En tout cas, oui. Voilà. 5-6 mois pour envoyer l'œuvre.
Et on se retrouve donc à la fin de l'année, au mois de juin, et il y a des œuvres qui sont sélectionnées, qui sont exposées, et qui sont présentées à un jury présidé cette année par Mathieu Amalric.
Tout à fait.
Il y a dans cette initiative autant d'artistique que de politique, vous diriez politique au sens noble du terme ?
Ah oui, l'association, elle est quand même portée par des personnes qui travaillent dans le médico-social, alors même s'il y a aussi des gens qui sont aussi dans la culture, on a quand même des éducateurs, des éducatrices, des responsables d'établissement, donc je pense qu'il y a dans ce sens-là une volonté
De faire bouger les choses. Est-ce que c'est quoi en fait le principe, je dirais, éthique de cette opération colis suspect? Quel est le message que vous avez envie de faire passer?
Alors, je vais essayer de parler au nom de l'association, mais...
Ou alors, est-ce que vous voulez mettre un coup de pied au cul? Je ne sais pas, vous prenez la question comme vous voulez.
Non, mais je crois qu'il y a déjà une volonté de faire des choses avec des institutions. Et mettre un coup de pied au cul, je ne sais pas, mais en tout cas, changer la façon dont on parle des personnes en situation de handicap et des fois une vision un peu triste, un peu...
Misérabiliste,
ouais. Je pense que c'est de prendre le contre-pied, au contraire de faire des événements vivants, et tout en acceptant vraiment absolument tout le monde, mais comme je disais tout à l'heure, en essayant aussi de réfléchir à quelque chose qui est important, en tout cas sur les éditions Colis Suspects, c'est ce fameux concept d'apport de la marge, en quoi les gens qui sont à la marge peuvent apporter quelque chose en plus, alors pas tous, pas tout le temps, mais en tout cas, on essaie de dénicher.
Et on le précise, hein, on n'est pas du tout dans la kermesse de fin d'année, c'est-à-dire que les œuvres, elles sont prodigieuse. Je le dis, j'y suis passée l'année dernière, c'est incroyable. Enfin, ce qu'on voit, c'est d'une qualité qui est...
Il y a une volonté. Alors déjà, on travaille avec une scénographe, donc Manon Grandmontagne, qui justement on va travailler l'écran, en fait, pour que ce soit pour ajuster peut-être un peu les déséquilibres et en même temps mettre en lumière un peu tout le monde. Et, et on va travailler avec 16 artistes associés, donc qui travaillent dans des disciplines qui sont peu représentées en institution. J'ai envie de dire, ça peut être de la sérigraphie, la linogravure, à beaucoup de vidéos aussi, du stop motion, des choses qui sont peu représenter en institution et qui là du coup se retrouvent dans l'exposition, parce que ça va être des ateliers qui vont être faits avec des groupes très restreints dans certaines institutions, voire parfois même en binôme, justement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut obtenir un résultat surprenant. Donc ça surprend à la fois l'artiste et évidemment le ou les résidentes.
Vous êtes aussi le fondateur et le guitariste du groupe Astéréotypique, on entend d'ailleurs dans la playlist France Inter, on avait reçu certains de ses membres ici même en marge. Vous, quel est votre rapport à la marge, Christophe Lullier? En fait, j'aurais rêvé de faire un En Marge avec vous, on l'a jamais fait, l'émission s'arrête. Tant pis pour vous, tant pis pour moi, surtout, mais un jour on le fera. En une phrase, en une question, quel est votre rapport à la marge? Qu'est-ce que vous venez foutre là-dedans, vous?
Moi, je crois que je me suis laissé surprendre par ça avec le temps. Tout ça, c'est des choses qui sont faites en 15 ans. Au début, moi, je faisais de la musique, mais j'avais même caché ça. Et puis, j'ai eu la chance de tomber à l'IME à Alternance, où il y avait un directeur qui est aujourd'hui le président du festival et qui, je crois, a vu plus de talents et de possibilités que moi dans le projet Astéréotypie. Et donc, j'étais avec ma collègue Claire. Au début, c'était vraiment un atelier d'écriture autour des textes. J'ai compris que je pouvais, sans faire de concessions, porter un projet qui me plaisait, mais parce que les textes que je trouvais qui étaient en face de moi, ça valait largement ce qui était à la radio, voire ça dépassait. Et du coup, ça m'a ouvert sur cette question-là de manière large, sur le digital, le journalisme, la musique.
Agathe, vous avez reçu ce fameux colis suspect, vous avez répondu à votre manière, vous participez donc à cette quatrième édition. On a des photos de vos réalisations là devant nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? On n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais nous dire ce que vous avez voulu faire.
Alors, notre atelier, pas que moi, Nous avons voulu faire une installation qui est une extrapolation des trois petits dessins qu'il y a sur le colis suspect, justement, à savoir, il y avait un triangle, le sachet, et il y avait un dessin avec un triangle et un œil dessus, et dedans, il y avait un petit ciseau, une pierre et une feuille.
Ah, le pierre-feuille-ciseau.
Pierre-feuille-ciseau.
Il fallait imaginer quelque chose autour de ce jeu, pierre-feuille-ciseau.
Exactement. Okay. Alors, nous avons extrapolé l'idée de jeu, en faisant un jeu de combat, en nous inspirant des logos de PlayStation, mais en les transformant. La feuille, le carré, la croix, le ciseau, le rond, la pierre. Et là, dans notre jeu à nous, on a à peu près contre-pied, la feuille peut vaincre la pierre. Elle l'enveloppe.
J'aime bien l'idée. Vous, Ethan, vous y passerez deux fois à Colis Suspect, le 26 pour la soirée d'inauguration avec l'équipe du Papotin, et le 28 sur scène en première partie de Bonnie Banane avec votre groupe. Mary Belle, vous aimez la scène? Est-ce que vous aimez ça, les concerts, Ethan?
Ça dépend des concerts, mais oui.
Un peu.
Mais justement, c'est je préfère parce que quand je attends un concert, je suis toujours fatiguée après un moment parce que je n'ai pas trop rêvé d'être debout le soir.
Ah, vous n'avez pas l'habitude d'être debout le soir, donc vous êtes un peu fatiguée sur scène. À mon avis, vous allez tout donner là.
En marge. Sur France Inter.
Attention, oreilles ouvertes et cœur plus grand au Papotin sur France 2. Un jour, Omar Sy est passé et Ethan s'est mis à chanter. Je vous précise qu'Ethan s'en va. Il fait rouler sa chaise vers l'arrière. Il met son pull sur sa tête. C'est non.
Gonna make a difference.
Gonna make it right.
As I turn up the collar on
my favorite winter coat,
this wind is blowing my mind.
I see the kids in the streets
without enough to eat.
Who am I to be blind, pretending not to see their needs? Some in disregard, a broken battle town, and a one-man soul. They follow each other on each way, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm smiling with a man in the mirror.
Rapprochez-vous du micro, je vous jure, on va baisser tout doucement la musique. Si je pense que tout le monde aimerait l'entendre jusqu'au bout. Revenez, tout va bien. C'est si affreux de vous entendre. Ok, on va plutôt parler du dessin que vous m'avez fait passer. Vous préférez? Alors dites-moi. Alors je vois quelqu'un avec une flamme. Donc on est toujours sur l'exploration. Ça c'est votre truc, à vous. On a Carmen San Diego qui est pas très loin. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un dragon. Ça, c'est votre deuxième dessin.
C'est pas un dragon, c'est une référence d'une mythologie aztèque, mayan, sur un serpent plumé, où c'est appelé Arco-Cum-Can, où c'est appelé Quetzalcoatl.
Ok, waouh. Et ça, avec vos crayons de couleur qui ne vous quittent jamais. Vous avez toujours vos crayons de couleur avec vous?
Ça dépend des journées, mais oui, j'ai toujours.
Pourquoi?
Parce qu'il faut toujours être prêt. Pour tous les circonstances.
Je vois Agathe à côté qui dit oui, il faut toujours être prêt à dessiner. C'est vrai, Agathe, il faut toujours être prêt à dessiner, à saisir le réel, à en faire quelque chose.
Alors, peut-être pas saisir le réel, mais se l'approprier.
Ouais, c'est mieux. Vous avez raison. Dit comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous, Agathe, ce sont deux voix mêlées qui vous accompagnent, Stromae et Pomme, main dans la main, pour dire, non, pour chanter La Maladie, ma meilleure ennemie.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit.
C'est votre meilleur ennemi, la maladie aujourd'hui. Vous diriez ça, vous, Agathe?
Oui.
Comment vous cohabitez avec elle? Elle fait partie de vous aujourd'hui? Vous avez longtemps été en lutte contre elle?
Oui.
Ouais.
Parce que j'arrivais pas à accepter.
Et aujourd'hui, vous avez fait la paix?
Oui, différente et fière de l'être.
Ouais.
C'est... Oui, je suis une artiste en situation de handicap. Mais le handicap ne résume pas ma vie et ce que je suis. Je suis une jeune femme, je suis une artiste. Et oui, j'ai un handicap, mais ça ne m'empêche pas de créer.
Ça, certainement pas. Quand on voit, je vois les photos de vos œuvres là, peut-être qu'on pourra les mettre sur le site de l'émission. C'est magnifique. Agathe, juste une dernière petite chose, un petit caillou que vous allez poser sur votre route. L'objet qui vous raconte, qui vous incarne, celui que vous aviez envie de partager avec nous ce soir, ce serait quoi?
J'ai deux objets.
Alors, allez-y.
J'ai mon agenda,
ouais,
que j'ai eu du mal à m'approprier.
Agenda papier, couverture rigide noire, je précise pour celles et ceux qui nous entendent.
Oui, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes rendez-vous, donc beaucoup de rendez-vous médicaux.
Okay.
Et maintenant, j'arrive à gérer.
Donc c'est une sacrée victoire.
Oui.
Ouais.
Donc okay. Ça, c'est le premier objet.
Et le deuxième?
C'est mon badge.
Et
du
quoi,
parti animaliste.
Ouais.
Parce que ça me correspond bien et je l'ai toujours sur moi. Il a quasiment fait le tour du monde, celui-là. Quand j'étais en Thaïlande, au Vietnam...
Ouais.
En Toscane, je l'avais avec moi. Et c'est le parallèle avec les animaux, parce que j'aime les animaux.
Mmh. Moi aussi.
Vous aussi, Ethan? C'est quoi votre animal préféré?
J'aime le léopard et le guépard.
Ouais.
Animaux solitaires, mais à la fois mystérieux.
Et très beau.
Oui.
Très, très beau. Et vous, Agathe?
Alors, moi, j'en ai deux aussi.
Ouais.
Je dirais que mon animal totem, ce serait le chat. En plus, je m'appelle Chat Nu.
Et pourquoi le chat?
C'est à la fois indépendant, mais social à la fois.
Mm-hmm.
Il aime avec les humains.
Bah, c'est quand il veut, quoi. Un peu.
Ça dépend des chats.
C'est vrai. C'est vrai. Okay,
chaque chat
deuxième.
Est unique, comme chaque personne est unique.
C'est vrai.
Et le chat peut être un compagnon fidèle jusqu'au bout, comme chaque animal.
Ça, c'est vrai aussi. Agathe Chenuport, Ethan Offion, Christophe Lullier, merci d'avoir fait cette dernière Dans Marge avec nous. Colis Suspect, c'est du 25 juin au 3 juillet à Grande Contrôle à Paris. Toutes les infos sur ce site futurcomposé.org. Retenez néanmoins deux dates. Les Psychotic Monks en concert, c'est le 27 juin et le 28. Vous aurez Mary Bell, donc avec Ethan et Bonnie Banane sur la même scène. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve ailleurs à la rentrée, toujours avec le même plaisir. Agathe, oui, vous vouliez dire?
J'ajoutais que mon deuxième animal totem, c'est le
bien
cheval.
Sûr.
Et que j'ai une très forte relation avec une jument qui est maintenant à la retraite.
Et qui s'appelle?
Poppy.
Eh ben, salut Poppy.
Merci.